Europe 1, midi 14h, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France bouge sur Europe 1. Si vous nous rejoignez ici, vous savez que nous aimons vous montrer que même pendant la crise, il peut y avoir aussi des raisons d'espérer. Certes, cette période de confinement, d'effondrement de notre économie va laisser des traces, mais elle peut aussi faire émerger de nouvelles manières de travailler, de consommer, de vivre tout simplement. Et le mouvement est déjà enclenché, c'est ce que nous allons vous montrer, car si on regarde de près certains secteurs, eh bien, ils ont été tout simplement dopés par la crise. Pour en parler, elle est à mes côtés, comme chaque jour, bien sûr, c'est Elisabeth Assayag. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Raphaël, bonjour à toutes et à tous.
Avec le confinement, nous avons tous cherché, c'est vrai, à rester cloîtrés le plus possible chez nous. Résultat, eh bien, le secteur de la livraison ne s'est jamais aussi bien porté. Et cela a aussi permis à des entreprises qui démarraient de connaître une croissance impressionnante. Bonjour Séverine Picard.
Bonjour Raphaël, bonjour Elisabeth.
Merci.
Bonjour.
Merci Séverine d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de Fresh Family. Alors, vous êtes un site au départ de recettes en ligne clé en main. Et depuis le début de la crise, vous avez, vous, enregistré une croissance. Alors, tenez-vous bien, le chiffre est hallucinant, de l'ordre de 800%.
Oui, c'est bien ça, c'est bien ça. C'est sûr que le fait d'être confiné chez soi, ça donne plus de temps aux gens, plus envie aussi et plus le besoin de se faire livrer. Et c'est vrai que ça nous a rendu aussi d'autant plus utile pendant cette période de confinement, d'où cette croissance exponentielle. En fait, hein, on est une entreprise familiale et c'est sûr que le confinement nous a vraiment donné les moyens de servir encore plus nos clients, d'élargir notre éventail de fournisseurs, d'apporter des produits qu'on livrait pas avant le confinement. Je pense au papier toilette, à la lessive, avec les gages de qualité que nous on propose. Alors vous disiez qu'on était un site de vente en ligne. En fait, on est un peu plus que ça.
Bien sûr,
oui. Qu'un site de vente de recettes, on vend aussi comme une épicerie tous les produits qui sont labellisés bio, artisanaux.
Oui, parce que vous êtes installé au marché de Rungis, hein, ce qui fait que vous étiez finalement au plus près pour vous approvisionner aussi.
Exactement. Ben, on a même déménagé sur le Mine en pleine crise. Au moment où la crise s'est déclarée, en fait, on a réfléchi à tous les moyens possibles pour être le plus réactif possible, pour servir nos clients de notre mieux. Et il était évident qu'en termes de réactivité, pour faciliter le travail de nos partenaires, de nos fournisseurs, s'appuyer aussi sur des grossistes et des acheteurs qui ont 20-25 ans d'expérience, on était obligé de se positionner dans cet endroit stratégique qui est le Mine de Rungis. Donc c'est sûr que ça nous a demandé beaucoup de souplesse, beaucoup d'adaptation.
Oui, parce que ça fera tout juste un an cet été que vous êtes lancé. Hein. C'était juillet 2019, je crois.
Tout à fait, tout à fait.
Donc c'est inespéré finalement de pouvoir se développer, de voir son activité se développer à cette vitesse-là.
C'est inespéré, c'est une opportunité business pour nous, c'est sûr. On aurait espéré quand même croître dans des circonstances un peu différentes.
Bien sûr.
Nous, c'est sûr que juste avant le confinement, on était accéléré par un organisme d'Île-de-France qui s'appelle Wilco, auprès duquel on a obtenu des prêts d'honneur. On était prêts à mettre les moyens pour aller se faire connaître, aller chercher de nouveaux clients. Et c'est vrai que le coronavirus, en fait, ça a incité les gens beaucoup plus vite à nous trouver par eux-mêmes. Le bouche-oreille a très très bien fonctionné. Nos clients ont même fait livrer les grands-parents, leurs proches, les cousins. Enfin, il y a eu vraiment un effet boule de neige qui fait qu'on n'a pas eu besoin de mettre les moyens escomptés au début. Et ça s'est fait assez naturellement finalement parce qu'on répondait encore plus à ce besoin, je pense. Alors déjà de se faire livrer des aliments, et on est à la base de la pyramide de Maslow pour
bien
ça.
Sûr.
Et puis il y a aussi tout ce côté fraîcheur irréprochable de nos produits, la labellisation bio, le fait qu'on sélectionne des artisans, des producteurs qui, en plus de ça, travaillent sans additifs, sans sucre ajouté. On a vraiment ce côté quali que les gens recherchent en plus, d'autant plus dans cette période, en fait.
Elisabeth, c'est vrai qu'il y a quelques secteurs hein, qui parviennent à résister, oui. Certains qui réussissent même, on le voit, à tirer leur épingle du jeu.
Bah, évidemment, on pense à la grande distribution. Hein. On l'a vu et ça continue. Elle savoure discrètement ses bons chiffres, hein, parce que vous l'avez dit aussi, Séverine Picard, hein, c'est compliqué de dire tout ça dans ces moments-là de grande morosité et dans des moments de crise. Mais oui, ça marche bien. C'est l'une des rares à sortir hein, du lot. Les magasins d'alimentation ont récupéré mécaniquement ce qui était perdu par les cantines, par les restaurants. Et c'est vrai, elle se frotte les mains. Dès le début, les chiffres d'affaires ont progressé hein, entre 7 à 8%. Et au fur et à mesure, on a assisté à plus de 38% des ventes pendant toute la durée du confinement. Et ça ne va pas s'arrêter.
Oui, ça ne va pas s'arrêter. Et si on en parle aujourd'hui, c'est parce que ça a aussi un effet positif. Vous avez dû embaucher pendant le confinement. Vous êtes passé de 3 à 7 personnes. Donc, c'est aussi ça. C'est aussi du développement de l'emploi, finalement de l'espoir aussi pour la suite.
Oui, c'est évident que les emplois qui ont été perdus d'un côté vont se retrouver sur ce secteur-là, notamment parce qu'on a besoin de beaucoup de personnes pour nous aider à créer cette entreprise, finalement, à la mettre en place, à assurer la relation client, le traitement des commandes, la logistique qu'il y a derrière. C'est vraiment un événement logistique hebdomadaire qui tourne chez nous, donc c'est sûr que on a ce côté où les recrutements vont en plus s'intensifier dans les mois à venir. Je pense que finalement, ce dont vous parlez, c'est accéléré par le coronavirus.
Bien
nous, ce qu'on voyait avant même la crise, c'est qu'il y a un changement sociétal où les gens ont de plus en plus envie d'avoir accès à des ingrédients de qualité, c'est ce que nous on propose, et en plus de le faire tout en s'amusant de façon décontractée, en justifiant aussi le rachat chez nous parce que on propose beaucoup de goûts, c'est des ingrédients de très bonne qualité,
oui,
on s'amuse à cuisiner avec les enfants, c'est ludique aussi, c'est sûr.
Et on va voir que effectivement c'est une tendance de fond. Vous restez avec nous, je voudrais qu'on accueille justement ensemble Médéric Gasse, qui est le cofondateur de Delivening. Bonjour.
Oui, bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous aussi, hein, effectivement, vous offrez un service de livraison parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enseignes qui n'étaient pas considérées comme essentielles et qui ont vu leur fréquentation baisser, voire s'arrêter. Du coup, elles ont fait appel au service de livraison et celles qu'elles avaient d'habitude, les services qu'elles avaient d'habitude, ne faisaient pas le transport. Donc vous vous êtes dit, il y a peut-être quelque chose à faire.
Tout à fait. On est une société qui est spécialisée dans la livraison de colis volumineux et particulièrement le mobilier ou les cuisines. Et on a vu certaines enseignes qui se sont retrouvées sans service de livraison puisque les transporteurs classiques ont arrêté leur activité ou du moins l'ont suspendu durant le confinement.
Oui, sauf que la panne du frigo ou le four qui tombe en panne aussi, il faut continuer à pouvoir l'acheter et pouvoir le livrer.
Oui, il faut pour continuer à livrer l'électroménager, et puis il y a certains chantiers qui continuaient, hein, certains poseurs de cuisine et certains ouvriers qui continuaient à travailler, puisqu'il faut respecter la distanciation sociale, donc il fallait pouvoir continuer à livrer les matériaux. Et du coup, Delivening a su répondre à cette solution par notre système qui va différencier le transport en camion et la manutention en scooter, et qui part de ce fait permet de respecter les normes de distanciation sociale qui sont aujourd'hui en vigueur. Du coup, on a récupéré, nous, durant cette crise, une plus forte part de marché. On a réussi à maintenir notre chiffre d'affaires pré-crise, augmenter notre part de marché en répondant à des besoins comme des enseignes comme le Roi Merlin, qui sont des clients historiques chez nous, où certains magasins ont confié 100% de leur volume de livraison à Delivening, puisqu'on respectait certaines normes de sécurité.
Oui, vous êtes substitué finalement à leur propre service client.
Tout à fait, puisque dans les enseignes, même si les enseignes restaient ouvertes, il y avait souvent une part de chômage partiel, que ce soit dans les entrepôts ou dans les services clients. Et Delivening apportait, par ce côté supplémentaire de service client, la réponse à cette baisse de personnel disponible dans les enseignes.
Médéric, est-ce que c'est quelque chose qui va perdurer selon vous? Est-ce que c'est une activité que vous allez pouvoir poursuivre une fois que la crise sera derrière nous?
Oui, puisque Delivening, on a 2 ans d'existence. Les enseignes qui ont fait appel à nous, avec qui on ne travaillait pas auparavant durant la crise, il y en a la moitié qui ont décidé de continuer avec nous, puisqu'on a réussi à démontrer durant une période de crise qu'on pouvait fournir un service de qualité malgré des effectifs en baisse de leur côté et des contraintes de plus en plus lourdes. Du coup, aujourd'hui, on a déjà la moitié des enseignes qui nous ont contactés, qui ont confirmé la volonté de continuer à travailler avec nous.
Oui, c'est vrai que c'est important hein, de pouvoir comme ça envisager l'avenir. Elisabeth, on n'a pas parlé des ventes de vin. Ça aussi, c'est un secteur qui a marché très fort pendant la crise.
Bah oui, parce qu'il y a eu énormément d'apéritifs virtuels via diverses plateformes. Et donc, ça n'a pas découragé les Français de boire un petit verre de temps en temps pour le plus grand plaisir des cavistes. Allez, je vais vous donner un petit exemple. À Bourg-sur-Gironde, la maison, on a pu lire dans les colonnes de Sud-Ouest, les propos du directeur du syndicat viticole des Côtes-de-Bourg. En 15 jours, eux, ils ont vendu ce qu'ils vendent d'ordinaire sur l'ensemble d'une année. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En à peine 15 jours, ils ont fait le chiffre. Enfin, ils ont vendu ce qu'ils vendaient en une année. 1500 bouteilles sont parties. Pareil pour le site vin-étonnant.com. Dès le début du confinement, les demandes ont augmenté de 30% et la maison du vin qui enregistre un record ces temps-ci sur les commandes en ligne.
Merci.
Mais avec modération,
oui,
évidemment, il faut le rappeler. Hein.
Vous nous avez donné envie quand même, là. Médéric Gasse, merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir participé à La France Bouge. On reste ensemble. Ça continue 13h19.
Europe 1.
Se laver les mains, porter des masques, se protéger, c'est vrai que c'est devenu quasiment un réflexe et ces nouvelles conditions de vie ont aussi permis, vous allez le voir, de développer encore plus le secteur de l'hygiène.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
13h21 sur Europe 1. Il y a des entreprises qui ont retrouvé le sourire pendant le confinement parce qu'au début de la crise, leur chiffre d'affaires était à zéro. Et puis, eh bien, il est reparti à la hausse. C'est le cas de Direct Signalétique à Hasbrook. Bonjour Bertrand Delcé.
Oui, bon.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG de cette entreprise qui a tourné au ralenti jusqu'à ce que, mi-avril, le maire de votre commune vienne vous demander de fabriquer une protection pour la boulangerie. Et hop, là, tout est reparti.
Oui, tout à fait. En fait, on a complètement fermé. On n'avait plus d'appels téléphoniques, plus de commandes et les ventes s'étaient écroulées. Et en fait, il y a le maire de mon village qui m'a demandé effectivement de protéger, si j'avais pas un moyen pour protéger la boulangère. Et je lui ai proposé une protection en plexiglas. Et comme en fait, elle avait l'air très contente, on a décidé avec une petite équipe de volontaires de proposer des hygiaphones en plexiglas à nos clients. Et puis voilà, au fur et à mesure, on a développé une gamme complète de produits de protection. Et puis, ça fait un carton.
Oui, ça fait un carton à tel point que vous avez dû effectivement rouvrir parce que les commandes étaient à zéro. Et au lieu de monter tout doucement, en une semaine, arrêtez-moi si je me trompe, vous avez fait le chiffre d'affaires que vous faisiez l'année dernière en un mois ?
Oui, pratiquement, oui. Disons que, Direct Signalétique a environ 40 000 clients sur toute la France.
Oui, vous faites les panneaux de signalisation.
Voilà, au départ, on fait de la signalétique et de la sécurité. Et là, en fait, en proposant ça à nos clients, on a une équipe en fait très dynamique et très réactive. Et en fait, le fait de proposer ça à nos clients, ça a fait boule de neige très rapidement. Et on s'est retrouvé complètement submergé. Et depuis 3 semaines, c'est de la folie complète. Pour vous dire un petit peu au niveau des appels téléphoniques, juste avant le confinement, on avait 3-4 appels par jour. Et là, on est passé à plus de 200 appels par jour.
200 appels par jour, ça signifie que vous envisagez déjà de réorienter votre business aujourd'hui ?
Non, je ne pense pas parce que je pense que ça va s'arrêter aussi rapidement que c'est arrivé. Mais disons que ça nous a vraiment permis, moi j'étais super inquiet quand la crise a commencé, et c'est vrai que ça nous a permis globalement de faire à peu près le même chiffre que l'année passée, mais en très très peu de temps finalement.
Oui, donc ça permet de faire la jonction et de ne pas avoir de baisse de chiffre d'affaires. Parce que ça fait quand même 30 ans que vous faites ce métier. Hein. C'est donc une source d'activité vraiment bienvenue pour vous.
Ah tout à fait, parce que là, on était pas bien du tout. Là, effectivement, là, au niveau de la signalétique pure, comme ce qu'on faisait avant, le chiffre, il est près de zéro, en fait. Et là, maintenant, effectivement, j'espère qu'avec le déconfinement, notre activité va reprendre plus ou moins normalement par rapport à avant.
Justement, Elisabeth, l'activité plastique a fortement augmenté. Hein.
Ah oui, complètement, avec le recours au plexiglas pour le retour à l'activité hein, qu'on a pu constater dans pas mal de lieux qui accueillent du public, hein, dans les laboratoires. Aujourd'hui, vous pouvez voir du plexiglas dans pas mal de commerces. C'est devenu aujourd'hui un outil indispensable pour beaucoup d'entreprises. Et l'activité est telle que les fournisseurs de matières premières ont même du mal à suivre. Et le prix du plexiglas a augmenté lui aussi sur le marché.
Vous nous confirmez, Bertrand le sait, on a du mal aujourd'hui à se fournir en matières premières.
Ah oui, complètement. Là, c'est devenu une véritable galère pour en trouver. Donc, on en cherche désespérément partout. On est livré au compte-gouttes. Les prix ils augmentent très rapidement. Et c'est vrai que c'est assez compliqué.
Vous restez avec nous parce que vous travaillez aujourd'hui donc dans ce qu'on peut appeler l'hygiène, hein, grâce à ces paravents que vous proposez. Mais l'hygiène, ça passe aussi évidemment par le lavage des mains. Et cela a une incidence inattendue sur un de nos produits phares en France, le savon de Marseille. Bonjour Raphaël Seguin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG de la savonnerie Le Fer à Cheval. Vous dites-vous que vous aviez senti que les choses allaient se compliquer dès le mois de janvier. Vous avez anticipé, vous avez commencé à produire davantage.
Oui, exact. En fait, moi j'ai grandi en Asie, donc j'ai encore pas mal de copains et de contacts qui sont là-bas. Et mon frère et moi, on a vécu à travers leur stage en 2003. Donc on s'était dit, la mondialisation, c'est fort possible que ça ne reste pas confiné en Asie. Et donc, on a commencé à surproduire du savon dès le mois de janvier. En mi-février, on avait un plan d'action en place en termes de sécurité, en termes de production et de prioritisation des réseaux de distribution.
Oui, donc effectivement, vous avez senti que les choses allaient se compliquer et allaient arriver en France. Du coup, cette surproduction n'a pas suffi parce que les points de vente ont fermé. Et vous avez dû redoubler d'efforts. Vous produisez combien aujourd'hui par rapport à ce que vous produisez en temps normal ?
Aujourd'hui, on produit à peu près 30% de plus. Si on prend tout la période du confinement, on a produit à peu près 30% en plus. Après, on a été aussi étonnés. C'est vrai que, comme disait monsieur auparavant, on était aussi inquiets. Au début, on ne savait pas où on allait. On a de la chance de faire un produit dont on parle presque tous les jours la notion de diminution de risque d'infection. Et on a aussi été impacté par le fait que on a 650 points de vente en France et à 90%, ils sont tous fermés. Donc on a eu la chance d'avoir pu voir ça arriver et de mettre vraiment tous nos efforts et tout l'accent sur la vente en ligne qui, elle, a quadruplé en un mois.
Oui, c'est ce que beaucoup de commerçants ont été obligés de faire, hein, puisque les boutiques qui finalement les distribuaient étaient rideaux baissés. Elles ont dû s'adapter et créer des sites en ligne. Je crois qu'en avril, en principe, c'est 50 000. Aujourd'hui, vous êtes à 200 000 euros de chiffre d'affaires pour le mois d'avril. Je révèle rien de particulier.
Non, c'est ça. C'est tout à fait ça. Donc même nous, avant, on était surpris, on savait pas où on allait. Hein. Et comme l'a dit monsieur auparavant, on ne sait pas encore combien de temps ça va durer. Est-ce que maintenant que le déconfinement est arrivé, est-ce que les gens vont retourner vers les boutiques? Est-ce qu'on va garder ses clients? Donc tout ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille aujourd'hui. Mais bon, je pense que on s'en sort pas trop mal.
Oui, vous avez aussi signé des partenariats, je crois, avec le laboratoire Synlab Provence pour distribuer, là pour le coup, des savons professionnels, parce que ça aussi, c'est en train de prendre de l'ampleur.
Exactement. En fait, Synlab, c'était bien avant. C'était déjà en novembre qu'on en parlait. L'idée était vraiment de remettre en avant la notion de l'importance de propreté et du nettoyage des mains. C'était bien avant cette crise qu'on connaît. Donc c'était déjà en cours quand la crise a commencé. Donc avec Synlab, en fait, ils nous ont commandé, hein, c'était un partenariat, donc on a travaillé ensemble pour faire leur savon qu'ils ont eux-mêmes distribué dans à leurs clients et à leurs partenaires. Et puis ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est rendu compte que, un, on allait s'en sortir, et deux, il y avait une très forte demande pour nos produits, et qu'on faisait face à plein de gens qui n'avaient pas de savon, qui n'avaient pas d'outils pour se protéger. Et donc, on a commencé, dès le début du confinement, on a commencé à faire des dons. Donc, on est à peu près 15 000 savons offerts aujourd'hui, à une quarantaine d'associations différentes. On a commencé avec les EHPAD, les hôpitaux, les cliniques, et puis petit à petit à des associations dont Solidaires, les marins-pompiers de Marseille, les sans-abri. Bon, j'ai une liste de 40. On en a fait pas mal, mais on pensait ça complètement normal de le faire, puisqu'on était assez choqués par le besoin.
Bravo, bravo en tout cas pour ce que vous faites, Raphaël Seguin, la savonnerie de Le Fer à Cheval, et merci aussi à Bertrand Lecet qui était avec nous pour Direct Signalétique, 13h29 sur Europe 1.
Europe 1.
Et en restant chez soi pendant 8 semaines, nous avons aussi été de gros consommateurs de loisirs. A tout de suite.
Europe 1. La France bouge. Raphaël Duchemin.
13h32 sur Europe 1, rester à la maison, c'est aussi ressentir cruellement le besoin d'être à l'extérieur, de retrouver le plaisir de flâner dans un parc, de voir les feuilles d'un arbre bouger. Alors pour que cette envie de nature soit en partie comblée, certains ont eu l'idée de nous amener la nature à la maison. Bonjour Robin Morvan.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Mon Petit Coin Vert. Comme d'autres acteurs du secteur, hein, c'est vrai que ce confinement, qui plus est au printemps, vous a permis de nous rendre notre âme de jardinier. Vous avez livré des box pour nous faire pousser des légumes, des aromates, des fleurs bio.
Oui, tout à fait. Donc des box et pas que, parce qu'on propose sur Mon Petit Coin Vert des produits autour du jardinage, des carrés potagers, de l'engrais, des graines. Et effectivement, on a senti qu'il y avait un besoin dès le début du confinement. Ouais.
Ce besoin, il s'est exprimé comment? Vous avez vu effectivement le trafic augmenter sur votre site?
Oui, ouais. Bah, ça a été un petit peu immédiat. En fait, dans un premier temps, on a complètement fermé l'activité. C'était fin mars. Donc là, on a publié un certain nombre d'articles pour permettre aux familles, on pensait beaucoup... aux parents qui étaient avec des enfants en bas âge, qui n'avaient pas la possibilité d'avoir un espace extérieur. Donc on a fourni toute une liste d'idées, d'ateliers qui étaient possibles de faire autour de la nature, en intérieur. Et après, effectivement, donc on a pu relancer petit à petit l'activité et on a eu énormément de demandes puisqu'on avait le trafic sur le site internet qui a été multiplié par 4 et le nombre de ventes aussi qui a été multiplié par 3 entre mars et avril. Donc vraiment beaucoup, beaucoup de demandes et donc on a fait le maximum pour pouvoir livrer tout le monde.
Ouais, le problème du jardinage en fait, c'est le temps. Et là, les gens avaient du temps, donc ils ont, si j'ose dire, retrouvé les réflexes, les envies de jardiner, de faire pousser, de créer.
Et bah, vous vous visez dans le mille, c'est exactement notre analyse. C'est vrai que ce qu'on voyait avant cette crise, c'était qu'il y avait beaucoup de gens qui souhaitaient se lancer, cultiver leurs légumes, apprendre à découvrir le comportement des végétaux, mais qui n'avaient pas forcément le temps, parce que le jardinage, au final, quand on est au travail, bah, c'est le soir ou le week-end, et puis le soir ou le week-end, on peut avoir envie de voir ses amis ou avoir d'autres choses de prévues. Et donc là, c'est la première fois que la France entière, j'ai envie de dire, avait du temps et pouvait se consacrer donc à quelque chose qui, je pense qu'il y avait un besoin déjà de base. Et là, il pouvait répondre à ce besoin et prendre le temps, effectivement, de semer ses graines, de se renseigner, de voir comment ça se fait. Donc, de notre côté, ça a été agréable aussi de voir toute cette demande et de pouvoir accompagner tous ces nouveaux jardiniers et essayer de leur apporter un maximum de conseils.
Du coup, vous avez doublé le nombre de vos abonnés ?
Alors, on n'a pas tout à fait doublé le nombre d'abonnés, parce qu'on a eu beaucoup de demandes aussi sur tout ce qui est boutique, donc achat de coffrets, achat de carrés potagers, achat d'engrais, de pots, etc. Mais là, effectivement, il y a eu quand même un intérêt sur l'abonnement aussi, puisqu'on est passé à plus de 2000 abonnés. Et on propose aussi un groupe d'entraide sur lequel il y a notre professeur d'horticulture et tous nos jardiniers qui interagissent pour avoir des conseils, montrer leurs plantations. Et donc on est passé, on a lancé l'activité il y a 2 ans, on était à 600 membres sur ce groupe d'entraide. En un mois, on est passé à 1400 membres. Donc ça a plus que doublé en seulement un mois et avec beaucoup d'interactions aussi derrière.
Ouais, ce besoin de frais, hein, de vrai en fait, on l'observe aussi, y compris dans la grande distribution en ligne, parce que ça fait partie des produits qu'on demande, Elisabeth.
Oui, et d'ailleurs il y a l'exemple avec Épicerie, hein, c'est une société de livraison de produits frais, issus de commerçants locaux, entreprise qui fait plateforme, qui a été rachetée par le groupe Monoprix, et les demandes là ont tellement... ont été tellement fortes qu'ils ont fait les chiffres prévus sur 12 à 18 mois. Alors au début c'était des livraisons uniquement sur Paris. Désormais le service de livraison est accessible depuis la France entière et le gouvernement leur a même demandé d'ouvrir leur plateforme à d'autres artisans gratuitement parce qu'en général ils prennent une commission évidemment sur chaque panier vendu. Là ils leur ont demandé d'aider les artisans pour les aider à faire face à la crise. Seuls les frais de livraison et les frais bancaires sont à régler.
Vous restez avec nous Robin, on va s'intéresser à une autre manière de cultiver, de se cultiver en l'occurrence, avec le boom des sites comme Quick Partition, que vous connaissez bien d'ailleurs, Elisabeth. Bonjour Sarah Curtet.
Bonjour Elisabeth.
Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous proposez d'envoyer à ceux qui vous contactent les partitions des morceaux que vous avez à votre disposition pour que les musiciens puissent les jouer. Elisabeth, vous en avez vous commandé pas mal, je crois. Hein.
Oui, tout à fait. Je suis passée par Quick Partition, mais aussi par Noviscore, par des sites comme ça qui proposent des ventes de partitions en ligne. Parce que c'est vrai que le confinement, c'était aussi le moment de renouer avec d'anciennes, avec des passions qui sont parfois anciennes parce qu'on n'a pas le temps de pratiquer. La musique, ça se pratique tous les jours pour pouvoir progresser. Et là, justement, on avait du temps. Et moi, c'est vrai que j'en ai profité, j'ai commandé énormément de partitions pendant la durée de ce confinement et c'est très très agréable.
Comme par exemple ?
Ah, vous voulez des exemples ?
Ah, oui.
Angèle, hein, d'ailleurs sur Quick Partition il y a Angèle, les Beatles, Queen avec Bohemian Rhapsody qui est très agréable à déchiffrer au piano ou encore bah, évidemment Céline Dion, hein, on ne peut pas commander des partitions sans penser à Céline Dion.
Alors Sarah Curtet, justement quand on voit effectivement tout ce qu'Elisabeth a pu commander, elle n'est pas la seule, vous attendiez-vous à un tel succès pendant cette période de confinement ?
Alors, non, cette croissance, elle était imprévisible, ben, comme la crise qui est liée, mais elle est bienvenue, évidemment. Et puis, ben, je pense que vous avez bien cerné cette opportunité de retrouver son instrument, de prendre du temps pour en jouer régulièrement, prendre le temps aussi, pourquoi pas, de jouer en famille. Et en tout cas, chez Coup de Partition, on est vraiment ravis d'avoir pu apporter une source de divertissement sur cette période.
Ouais, combien parce que c'est très pratique, hein. Il faut le dire, vous commandez, vous réglez en ligne, et si vous avez une imprimante à la maison, vous avez la possibilité de les imprimer instantanément, donc c'est extrêmement
voilà.
Pratique.
C'était exactement l'idée, nous, quand on a créé cette société, c'était de rendre disponibles les partitions de musique immédiatement. Donc, il n'y a pas de livraison, il suffit de s'inscrire et on imprime la partition à l'unité chez soi, c'est instantané.
Combien vous en avez de partitions comme ça dans le catalogue ?
Alors, c'est plusieurs milliers de partitions. Je crois qu'on doit arriver à 5000 titres, principalement de la variété française, mais aussi, bah, vous avez parlé de Queen. Oui. Donc, on s'attache à suivre l'actualité internationale quand on peut. Les musiques de films, évidemment. On a aussi quelques partitions pour la flûte, par exemple, on a un très joli solo de flûte. Et puis, 5 heures Paris se veille, par exemple.
Il n'y a pas que ça. Vous vendez aussi des songbooks et des packs pour apprendre à jouer du ukulélé, parce que vous vous êtes dit...
Et ça vous intéresse, ça, Raphaël, d'ailleurs.
Exactement, je vais... Oui. Vous allez être contente si je m'y mets. Vous n'allez pas être déçue du voyage au bureau.
C'est ravi de vous entendre.
Non, je ne suis pas sûre que vous soyez si ravie que ça, je vous assure. Je n'ai pas du tout l'oreille musicale. Mais il y a beaucoup de gens qui se sont mis au ukulélé.
Oui, alors en fait, ce projet à l'ukulélé, c'est à la base pas l'activité de partition, mais ça nous a été présenté par Frédéric Fieffé, qui anime des tutos sur YouTube. C'est la chaîne Guitare Facile que je vous invite à découvrir. Et donc, il est arrivé avec des ukulélés, et c'est un instrument qui est tellement joyeux, tellement facile à aborder, que nous, on a eu le coup de cœur. Donc, on l'a suivi dans ce projet avec l'idée de rendre accessible l'ukulélé aux parents, aux instituteurs. Oui. Et donc, on s'est dit que finalement, cette période de confinement, c'était une période propice à ça, à se retrouver ensemble autour d'un instrument joyeux et facile à aborder. Donc, ça a évidemment été un succès.
Chiffre d'affaires multiplié par 3. Il y a des titres qui se sont particulièrement bien vendus, ceux qui faisaient aussi référence au coronavirus.
Oui, tout à fait. Alors, on a eu la chance pendant
Calogero,
cette période,
par exemple,
de profiter de live d'artistes confinés chez eux qui, quand même, ont partagé cette passion de la musique avec leurs fans. Ça a commencé avec cette magnifique chanson de Calogero. Et là, nous, on a pu instantanément proposer la partition du titre. Et ça a évidemment très, très bien marché.
On va l'entendre, d'ailleurs, Calogero. Grâce à Nicolas Charpentier, notre réalisateur. À moins que vous préfériez.
C'est un drôle de silence.
À moins que vous préfériez un petit air de ukulélé, mais ça n'est pas moi qui joue. Encore que, peut-être que.
Franchement, Raphaël, entraînez-vous ce week-end.
Je vais m'y mettre, c'est promis. Merci, Sarah Curté, d'avoir été avec nous. Merci à Robin Morvan. La France bouge continue, 13h42.
Europe 1.
Pour préparer le retour à l'extérieur, vous êtes nombreux aussi à avoir pratiqué du sport et à avoir opté pour l'achat d'un vélo. A tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
13h43, vous faites peut-être partie de ceux qui ont recommencé à travailler lundi avec le déconfinement. Or, vous ne voulez pas reprendre les transports en commun. Et s'il y a un secteur qu'il a constaté, c'est celui des véhicules de mobilité, comme par exemple la trottinette. Bonjour Sénat Jovi.
Bonjour.
Merci
Raphaël.
D'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Green Riders en Seine-Saint-Denis. Vous avez, conçu des bornes brevetées qui vont être mises en place un peu partout en France. Les discussions sont en cours. Elles s'activent ces dernières semaines parce que vous avez constaté qu'il y avait de plus en plus de monde finalement qui voulait circuler à trottinette et qui du coup voulait installer votre solution.
Oui, tout à fait. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de me laisser la parole. Alors, tout à fait, Green Rider, donc c'est une start-up qui est basée en Seine-Saint-Denis, qui propose un service lié à la trottinette avec une activité location, une activité réparation et une activité liée au retail qui cartonne pas mal.
Oui, c'est-à-dire que vous avez vu effectivement le nombre de demandes augmenter. Quand vous dites ça cartonne pas mal, on peut l'évaluer ?
Alors aujourd'hui, on est par rapport à un mois moyen, on est à plus de
40%. 40%, oui. C'est-à-dire que vous sentez vraiment que les gens se tournent vers les trottinettes, vers les vélos électriques, parce qu'ils ont très peu envie de retourner dans un métro ou un tramway bondé.
Oui, exactement. Donc nous, ce qu'on remarque, c'est que les clients recherchent justement un moyen de transport lié au déconfinement pour pouvoir justement respecter les gestes barrières.
Certains annoncent même des chiffres mirobolants. Certains de vos confrères voient leur activité multipliée par 3 ou 400. Elisabeth, c'est vrai que c'est assez hallucinant cette envie, cette appétence pour la mobilité aujourd'hui.
Oui, notamment pour les vélos. Par exemple, à Quimper, je lisais dans les colonnes du Télégramme, chez Vélozen, donc c'est une enseigne, ils assistent à une telle hausse des ventes que c'est autant qu'au mois de juillet. En fait, ce qu'ils sont en train de vendre, c'est autant qu'au mois de juillet. C'est le mois où ils concentrent d'habitude le plus de ventes habituellement. Et bien là, ils ont eu, c'est exactement les mêmes chiffres. En deux jours, ils ont eu autant d'achats aussi via leur site internet, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui commandent en ligne leur vélo que pendant tout le mois de mai 2019. Voilà, donc c'est ça, les ventes sont très 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 importantes. Et puis d'ailleurs, face à cela, le gouvernement va aussi former des mécaniciens avec la création d'une académie des métiers du vélo pour donc former des mécaniciens dans les mois à venir pour répondre à cette demande croissante d'utilisation de vélo. Et donc qui dit utilisation de vélo dit réparation aussi de vélo.
Sénat Jovi, vous qui êtes fondateur de Green Riders, quand vous avez commencé à imaginer votre projet, vous vous attendiez justement à devoir faire face à une telle demande. Les premiers contacts étaient peut-être un peu timides avec certaines villes, même si on s'aperçoit qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de demandes à côté de trottinettes ou côté vélo électrique, mais là la crise finalement a boosté le secteur.
Oui, parfaitement. En fait, la crise a accéléré justement la croissance de l'activité.
On remarque notamment que les infrastructures sont aujourd'hui en adéquation avec ce type de mobilité et surtout le fait que les gens ne veulent pas prendre les transports. Donc aujourd'hui, on se trouve dans une situation où cette activité-là reste une activité, on va dire, phare pour les mois à venir.
Et ça va se confirmer avec notre invité suivant. Benoît Legrand est en ligne avec nous, qui dirige le réseau GoSport. Bonjour Benoît.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. On parlait trottinette, on parlait vélo. Vous avez anticipé la situation hein, depuis 4 semaines. Vous êtes dit, on va déconfiner à un moment et les gens vont vouloir finalement acheter des vélos.
Exactement. Bah pour GoSport, la catégorie vélo était déjà bonne à fin 2019. Puis le début d'année a été bon aussi, hein, lié aux grèves des transports, où on avait déjà eu l'occasion de se tester, du coup. Un confinement en deux temps. Hein, la première partie, on l'a déjà dit, et certains de vos auditeurs l'ont dit également, le fitness est parti très, très fort.
Bien sûr.
Et puis dans un deuxième temps, le vélo qui a avoisiné les progressions autour de 300%. Hein, donc vraiment... vraiment très fort. Et c'est vrai que chez GoSport,
300%, ça veut dire combien de vélos commandés, combien de vélos vendus aujourd'hui, aller sur une semaine, sur un mois?
Ah bah sur une semaine, on peut aller jusqu'à 1000 vélos vendus. C'est vraiment variable en fonction des magasins et puis surtout aussi en fonction des différences de vélos. Hein. On a des vélos enfants, des VTT, des vélos électriques. J'y reviendrai aussi parce que je rejoins l'auditeur précédent, notamment sur les vélos électriques, qui ont eu des progressions vraiment très fortes. Mais sans oublier non plus les vélos classiques, hein, les vélos mécaniques, et le vélo enfant, où on sent que les enfants aussi avaient besoin de sortir de chez eux. Et vous parliez de déclic et d'anticipation, et c'est vrai que tout début avril, on a eu cette phrase en interne, on s'est dit « il y aura un avant et un après confinement ». Et on s'est dit tout de suite, mais finalement, comment on va se déplacer en transport en respectant toutes ces règles de distanciation, de gestes barrières? Et finalement, la bonne réponse, c'est quand même celle du vélo, parce qu'à la fois, c'est écologique, ça fluidifie le trafic routier, ça allège les transports en commun, et puis ça permet la distanciation sociale plutôt naturellement. Quoi. Et puis, ça s'est fait au fil des jours. Et puis, en parallèle, le gouvernement annonce cette aide hein, de 20 millions d'euros.
Oui.
Il faut le souligner aussi, hein, qui va aider les Français à se remettre au vélo, et notamment dans la réparation vélo. Vous parliez de réparation tout à l'heure. C'est vrai que nous, dans notre plan vélo, en interne, on a travaillé un grand plan vélo. Et on a renforcé, bien évidemment, les stocks de vélos, les accessoires.
Vous avez 120 ateliers répartis sur le territoire, justement?
Ouais. Exactement. On a fait un focus particulier sur ces ateliers dans lesquels on a à la fois renforcé les équipes, on a mis en place des rendez-vous en ligne, on a agrandi les espaces dédiés à la réparation et puis on a même mis en ligne, en interne, on travaille des tutos pour aider nos collaborateurs, les former sur des gestes basiques de réparation vélo. Et d'ailleurs, on a mis en ligne nos propres tutos pour les Français, pour les aider à réparer aussi leur vélo, pour ceux qui n'ont pas envie de se déplacer.
Et il y a un point important que je voudrais signaler, c'est que vous privilégiez aussi le circuit court, parce que beaucoup de personnes qui travaillent dans cette branche-là le savent. Hein. La problématique, c'est qu'il y a beaucoup de pièces qui viennent de Chine. Là, vous, avec le vélo, la forte demande, c'est évidemment le risque de pénurie sur les pièces. Donc vous dites, on se sert en France, on se sert en Italie.
Oui. Alors, on sert exactement à 50% en France, 50% en Italie. Et puis, on a d'entrepôts en France qui nous permettent d'avoir le stock. Et encore une fois, l'anticipation nous a permis de préparer cette vague et de remplir nos entrepôts et de remplir également nos magasins. Il faut savoir que dans un magasin GoSport, les équipes ont repris J-12 avant le déconfinement pour à la fois préparer les gestes barrières, s'approprier toute cette nouvelle façon de travailler, mais également de préparer les vélos, parce que le vélo, ce n'est pas un t-shirt à sortir d'un carton. Ça se prépare, ça se monte, ça se règle, et ça demande de la technicité, bien évidemment.
Alors, puisque vous avez dit le mot t-shirt, Elisabeth, justement, il y a aussi au niveau des vêtements, des produits qui se sont envolés.
Oui, pendant le confinement, alors on ne sait pas acheter des vêtements pour sortir, mais des vêtements pour rester à la maison. Et d'ailleurs, par exemple, sur le site de vente en ligne Zalando, ils ont vendu énormément de pantoufles dans la catégorie chaussures. Et autre exemple, chez Adidas, là aussi, les ventes de savates de piscine se sont envolées, voilà, pour rester à la maison, mais bien chaussées.
Merci à tous d'avoir participé à cette émission. L'idée, c'était effectivement de vous montrer que voilà, il y a aussi des raisons d'espérer, des secteurs qui fonctionnent, des gens qui embauchent et que l'économie, grâce à ces secteurs, va repartir. Merci d'avoir été avec nous en direct dans La France Bouge. Elisabeth, nous, on va se retrouver lundi.
On se retrouve lundi, évidemment, avec plein de nouvelles choses un petit peu dans La France Bouge.
Bah, une France Bouge
qui
s'adapte, évidemment, comme toujours, et qui va remettre à la une les startups.
Comme nos entrepreneurs.
Exactement.
Voilà, on s'adapte.
Les startups qui se lancent pendant la crise, qui va aussi vous offrir des solutions et vous aider, bien sûr.
Bien sûr.
On est là pour vous. On fait ce qu'on peut pour être à vos côtés, y compris pendant cette période difficile. À lundi, Elisabeth.
À lundi.
Europe 1.
Et on va retrouver d'ici quelques minutes Roland Pérez qui répond à toutes vos questions de droit. À tout de suite.
Europe 1. La France bouge. Raphaël Duchemin.
13h54 sur Europe 1. Comme chaque jour, nous avons le plaisir de retrouver Roland Pérez qui nous accompagne dans cette émission depuis le début du confinement.
Oui.
Et qui répond à vos questions. Bonjour, maître.
Hello Raphaël, bonjour à tous.
On est ravis de vous retrouver Roland pour répondre à Michel et Astrid aujourd'hui qui ont soit composé le 3921 soit le hashtag Radio Ouverte. Alors on va commencer par Michel. Il nous dit on est avec ma femme, mes enfants un peu à bout d'être resté enfermé, on le comprend, on voudrait voir la mer. Je pense que l'on va franchir la limite des 100 km. Est-ce que ça veut dire 4 amendes de 135 € et risque-t-on de devoir rebrousser chemin? Bonne question. Une amende par personne ou une amende par voiture?
Et alors après 2 mois enfermés ou quasi sans espace extérieur, Raphaël, pour se défouler ou profiter de la belle saison, il est vrai que ça reste très compliqué. Et d'ailleurs, Michel n'est pas seul dans cet état d'esprit de vouloir partir ce week-end. Selon un sondage de l'Institut YouGov, un francilien sur 5 compte dépasser les 100 km pour aller s'aérer. Et compte peut-être pour cela s'appuyer sur le flou, vous savez, ce flou juridique dont on parle déjà sur cette antenne depuis quelques jours et qui entoure la définition du motif impérieux qui est requis pour justifier d'aller à plus de 100 km. Dans la loi sanitaire d'urgence, on a plein de motifs, mais il est question aussi de ce motif générique dit impérieux pour amadouer les forces de l'ordre en cas de contrôle. Et mon conseil pour Michel, précisément, si vraiment il dit qu'il est au bout du rouleau, il peut demander peut-être à son médecin de lui établir un certificat médical qui atteste de son état psychique, de sa fragilité depuis le confinement, accréditant ainsi visiblement le besoin de partir avec sa famille quelques jours, pour peut-être rejoindre sa résidence secondaire ou chez des amis prêts à les accueillir avec une attestation si besoin, même des amis qui en profiteront pour indiquer que toutes les précautions sanitaires seront prises et respectées. Il faut évidemment, moi je demande pas évidemment à ce qu'un médecin ou des médecins qui nous écoutent ou des gens qui seraient dans la situation de Michel d'établir des certificats de complaisance. Il faut vraiment que ce soit un certificat qui établisse que Michel vraiment est à bout. Le ministre de l'Intérieur l'a dit et répété, les contrôles doivent être menés avec discernement et intelligence pour apprécier les motifs impérieux avancés. Et sur le risque d'amende, je confirme que si vraiment Michel était contrôlé avec ses 2 enfants et sa femme, Michel et sa femme peuvent se voir infliger une amende de 135 € si on estime que son motif ne convainc pas les contrôleurs. Et les enfants, eux, bien sûr, ne se verront pas verbalisés. Ils n'ont fait que suivre leurs parents, les pauvres, donc ils sont absolument pas responsables. Je précise enfin qu'au bout de 4 violations dans le même mois, si Michel partait toutes les semaines, cela peut conduire à un risque d'amende de 3 500 € et de 6 mois de prison, dit la loi. Mais encore une fois, cette loi est quand même, Raphaël, très contestable, car il n'existe pas en droit pénal d'infraction sans définition précise des éléments qui justifient l'existence de l'infraction. Et il va falloir s'attendre, à mon sens, à une pluie de contentieux sur ces restrictions d'aller et venir sur le territoire.
Voilà qui va vous faire du travail, dites-moi, Roland, sur cette question des amendes. Donc, en tout cas, c'est bien une amende par adulte dans la voiture par véhicule. Donc, ça peut faire cher, effectivement, la balade au bord de la mer. Astrid a aussi une question pour vous, Roland. Je dois faire ma déclaration d'impôt. Tiens, ça me fait penser que moi aussi. Y a-t-il des choses à savoir ou à faire en raison de la pandémie?
Alors, d'abord, on pense à tort, Raphaël, que depuis la mise en place cette année du prélèvement à la source, on est dispensé de faire une déclaration de revenus, alors qu'en fait, et plus exactement, si la situation d'Astrid n'a pas changé et ne nécessite donc pas de rectification, il n'est plus besoin de faire une déclaration. C'est ce qu'on appelle un peu la déclaration tacite. Il suffira juste de vérifier les éléments qui ont été préétablis automatiquement par l'administration. Et donc, Astrid, si elle la reçoit en ligne, cette déclaration préétablie, elle n'aura pas besoin de la renvoyer. Dans les autres cas, il faudra faire sa déclaration. Si on l'a perçue en ligne, on pourra quand même la renvoyer en ligne ensuite. Mmh. Et je dois préciser que la crise sanitaire a rallongé les délais pour l'adresser en ligne ou par la poste. Donc rassurez-vous aussi, Raphaël, pour les revenus 2019, vous avez entre aujourd'hui, si vous le souhaitez, jusqu'au 12 juin pour faire ou compléter votre déclaration. 12 juin, c'est bien.
Oui.
Et puis, si vous voulez l'envoyer, si vous voulez l'envoyer par papier, vous avez entre le 4 et le 11 juin, en fonction des départements. Enfin, si Astrid a subi une baisse de revenus depuis le confinement, ce qui est fort probable, elle a pu peut-être l'indiquer sur son espace particulier qui est ouvert avec son numéro fiscal et son mot de passe sur impots.gouv.fr pour obtenir une baisse de son taux de prélèvement. Il y a un numéro quand même national unique si elle a des questions à poser, parce que les centres d'impôts étaient fermés, ils rouvrent à peine, mais ils ne peuvent pas encore recevoir tout le monde. Donc il y a un numéro national unique pour obtenir des renseignements, qui est le 0800 401 401. Il y a aussi le site des impôts où on vous répond en 48 heures.
Merci Roland pour toutes ces précisions et merci d'avoir aidé autant les auditeurs depuis le début de ce confinement. On ne se retrouvera pas lundi parce qu'on va vous laisser reprendre aussi le cours de vos activités normales, mais vous avez été d'une aide très précieuse depuis le début.
Ça a été un plaisir.
Et ça a été un plaisir que de vous avoir avec nous à partir de lundi.
Ben, moi aussi.
La France bouge revient et la France bouge s'adapte. On vous embrasse Roland, à très vite.
Moi aussi je vous embrasse très fort.